Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h-14h30, bonjour à tous. 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, caddie victime de la crise sanitaire. Ce gros couac autour du pass vaccinal la nuit dernière à l'Assemblée. Et puis les époux Balkany, peut-être bientôt en prison.
Le Danemark qui annonce donc la fin de l'épidémie de Covid dans 2 mois. Est-ce qu'on peut y croire? Et puis je vous l'ai dit, à 12h50, on reviendra sur le décès, le parcours des frères Bogdanov avec celui qui a été leur attaché de presse, Cédric André, l'invité de RTL Midi tout à l'heure.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il soigner en priorité les vaccinés? Vous dites oui à 55%, non à 38%. La météo du jour, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Ça reste bien gris.
Oui, et bien pluvieux encore cet après-midi entre le sud-ouest et le grand est avec du vent. Dans le nord-ouest, un ciel de traîne, donc entre nuages, quelques éclaircies et des averses. Et puis à l'avant, le ciel se voile entre les Pyrénées et les Alpes et la grisaille persiste sur le pourtour méditerranéen, le tout sous des températures en baisse mais toujours au-dessus des normales, de 8 à 17 degrés au nord et de 12 à 20 degrés au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
C'est une entreprise qu'on connaît tous, son nom est même rentré dans notre vocabulaire courant. Caddie est donc à nouveau sur la sellette. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Le célèbre fabricant de chariots est en cessation de paiement et le Covid y est pour beaucoup.
Oui, alors c'est malheureusement une triste habitude hein, parce que c'est la 3e fois en 10 ans que Caddie se retrouve en difficulté financière, mais c'est vrai que là, les derniers mois sous Covid ont précipité les chariots dans le mur. D'abord, c'est un groupe qui travaille beaucoup à l'international et le commerce a été stoppé pendant plusieurs mois. Ensuite, la flambée des prix de l'acier et du pétrole qui sert de base pour les matières plastiques ont rendu les coûts de fabrication beaucoup plus lourds. Et puis enfin, la seule usine qui reste, Detwiller dans le Bas-Rhin, s'est retrouvée cluster géant il y a quelques mois, donc a dû s'arrêter. Tout ça vient s'ajouter à des difficultés plus profondes qui fragilisent le groupe. Depuis 2018, l'entreprise est possédée à 70% par un Polonais qui a envoyé tout ce qui a de la valeur en Pologne et qui a laissé la production bas de gamme en France. L'entreprise emploie aujourd'hui 140 personnes contre plus de 1000 il y a 10 ans. Vous savez que c'est une entreprise qui date de 1928, un caddie. Et ce n'est qu'en 1957, à l'époque en 28, c'était des mangeoires pour les poussins qu'on fabriquait. C'est en 1957 qu'on a créé le fameux caddie grâce à un neveu des fondateurs qui avait découvert aux États-Unis ces petites voiturettes quand on fait du golf. C'est comme ça qu'est né le groupe et tous les journalistes économiques se sont déjà fait appeler 1000 fois par le groupe caddie pour leur rappeler que c'est une marque déposée et qu'il faut dire chariot.
Il faut dire chariot,
un peu comme Frigidaire.
Merci beaucoup Martial Liu, chef du service économie.
Et parmi les entreprises en difficulté, certaines redoutent de devoir rembourser le plan garanti par l'État.
Le fameux PGE, et ce dès le mois de mars prochain. Alors ce matin sur RTL, Bruno Le Maire a promis un répit pour les situations les plus délicates.
Soit un étalement de leur prêt garanti par l'État. Normalement, on ne peut pas aller au-delà de 6 ans. Là, nous avons prévu que l'étalement pour ces entreprises-là pourrait aller jusqu'à 10 ans. Donc si vous avez une difficulté, vous allez voir la médiation du crédit. On vous dit, vous allez étaler sur 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 10 ans.
D'accord.
Et la deuxième possibilité qui leur sera offerte, c'est de commencer à rembourser non pas au printemps prochain, mais 6 mois plus tard, à la fin de l'année 2022.
Bruno Le Maire, invité ce matin sur RTL d'Alba Ventura. Bonjour Anaïs Bouissot.
Bonjour.
Combien d'entreprises pourraient être concernées par ces mesures annoncées par le ministre ?
Cette souplesse pourrait concerner 25 à 30 000 entreprises sur les 700 000 qui ont contracté un prêt garanti par l'État. Ça n'est pas rien, hein, car pour ces entreprises déjà fragiles, devoir en plus rembourser, payer ses dettes tout de suite aurait pu être fatal. On parle de toutes petites entreprises, la plupart du temps des artisans, des commerçants, des petits hôtels, des bars-restaurants particulièrement touchés par les mesures sanitaires et qui n'ont pas eu le temps de refaire leur trésorerie. Elles ont souvent des crédits de 10, 20, 30 000 euros en attente. Et ce sont ces sommes-là dont le remboursement va être assoupli, à condition de contacter le médiateur du crédit, c'est sur internet hein, en tapant médiation crédit, et à condition également d'avoir l'accord de votre banque pour suspendre vos échéances ou les étaler dans le temps.
Et ce midi, bien sûr, soulagement du côté des chefs d'entreprise. Jean-Eudes Duménil est le secrétaire général de la CPME qui regroupe les petites et moyennes entreprises.
C'était absolument indispensable. On avait vraiment des remontées de la part d'entrepreneurs qui étaient angoissés à l'approche des remboursements qui se profilaient et dans l'incapacité de rembourser. On risquait d'avoir des entreprises en très grande difficulté sans qu'elles n'y soient pour rien, hein, parce que j'insiste là-dessus, c'est lié aux restrictions sanitaires du fait de la crise Covid. Franchement, dans l'intérêt commun, c'est une très bonne chose.
Le secrétaire général de la CPME, joint pour RTL par vous, Anaïs Bouissou, merci beaucoup. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, gros couac la nuit dernière, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, on appelle ça un coup de théâtre doublé, vous l'avez dit, d'un énorme couac, car hier dans la majorité, je peux vous dire qu'il n'y avait aucune inquiétude. Il est donc minuit hier, lorsqu'Olivier Véran réclame la poursuite des débats jusqu'à l'aube, mais la présidente de séance LR, Annie Genevard, invoque un article du règlement et réclame un vote.
Qui est pour? Alors attendez, il y en a qui arrivent et qui vont lever la main. Donc on attend que tout le monde s'installe.
21, 22, 23, 24, 25.
Qui est contre? Bon, posez-vous, parce que c'est pas possible de compter. On suspend.
Voilà, ce que vous ne voyez pas dans ce brouhaha, c'est la course de vitesse entre députés de droite et de la majorité pour lever la main. Au final, la droite fait une alliance qu'on dira de circonstance ou opportuniste avec les Insoumis et le Rassemblement National. L'opposition l'emporte de 3 ou 4 voix et les débats s'arrêtent net dans la confusion générale.
Et maintenant?
Alors, l'examen du texte reprendra vers 17h30, il y aura une pause, puis ça repartira vers 23h en principe pour toute la nuit. Christophe Castaner, le patron des marcheurs, a battu le rappel des troupes, vous l'imaginez, mais il a passé un sale quart d'heure hier soir. Enfin, selon plusieurs sources, la loi ne pourra pas être votée le 15 janvier comme prévu, mais 24 ou 48 heures après, c'est-à-dire au plus tard le 17 janvier.
Merci beaucoup Vincent Derosier du service politique de RTL au Royaume-Uni. Retour à l'école aujourd'hui pour les petits Anglais. Et figurez-vous que des enseignants retraités ont été appelés en renfort pour remplacer les professeurs positifs au Covid. Dans les hôpitaux, en revanche, ça commence vraiment à coincer, Marie Billon.
Et oui, c'est le plus gros souci des hôpitaux britanniques avec cette vague d'Omicron, le manque de personnel à cause du virus qu'ils doivent soigner. Au moins 6 groupes hospitaliers anglais ont déclaré un incident critique. C'est un mécanisme qui leur permet de collaborer plus facilement avec des établissements voisins pour réduire la pression. Le docteur Mario est urgentiste dans un hôpital du sud de Londres. Il doit faire des heures supplémentaires pour parer au manque de personnel.
C'est une hécatombe dans le sens que, en fait, nous avons presque 50% de notre effectif complètement hors jeu. Ils sont tous malades, soit ils sont isolés. En tout cas, chaque matin, quand on vient au boulot, on ne sait pas qui va venir et qui ne va pas venir. C'est vraiment difficile, quoi.
Alors, le nombre d'admissions serait gérable si tant de collègues n'étaient pas absents. Les chiffres des hospitalisations sont loin des prédictions initiales. On s'attendait à 5000 nouveaux patients chaque jour en Angleterre début janvier. Hier, il y a eu 1819 admissions. Il y en avait environ 2000 la semaine précédente. Une légère baisse donc. À Londres, le nombre de cas a peut-être atteint un plateau. C'est donc cette semaine et la semaine prochaine que les hospitalisations dans la capitale devraient toucher un pic.
Marie Billon, en direct de Londres pour RTL. La Grande-Bretagne qui annonce par ailleurs un nombre record de traversées de migrants. 28 395 ont traversé la Manche en 2021. C'est 3 fois plus que l'année précédente.
Tout à fait autre chose à présent. 8 mois après le terrible féminicide de Mérignac, 6 policiers sont convoqués aujourd'hui devant le conseil de discipline.
Et parmi eux, le patron de la police de Gironde. Tous doivent répondre d'une série de manquements, de dysfonctionnements constatés à l'issue de ce drame. Chaynaise avait été brûlée vive, on le rappelle, en pleine rue par son mari, déjà condamné pour violence conjugale et contre lequel elle avait porté plainte. Les époux Balkany, eux, pourraient retourner en prison. Leur placement sous bracelet électronique a en effet été révoqué, Anne Le Hénaff.
Oui, à la veille de Noël, parce qu'ils ne respectaient pas certaines obligations, à commencer par rembourser le fisc des sommes qu'ils ont été condamnés à payer pour fraude fiscale, 1 million d'euros, et aussi ne pas sortir de leur maison, leur moulin, dans l'heure, mais leur bracelet sonnait tout le temps. Maître Pierre-Olivier Sûr et l'avocat d'Isabelle Balkany.
Chez elle, c'est une maison de campagne. Il y a une cour, il y a le chien qui court, il y a le facteur qui sonne à la grille et il faut aller ouvrir. C'est la raison qui fait qu'il y a eu ces sonnettes intempestives. Il n'y a rien de très grave. Ce sont des raisons sans manquement majeur. Donc autant vous dire qu'il s'agit surtout d'un coup de semonce.
Les époux Balkany auraient pu être envoyés en prison parce que le bracelet c'est une peine, hein, mais ils ont fait appel et le parquet a décidé d'attendre cette décision d'appel, on n'en connaît pas encore la date, compte tenu de l'état de santé des anciens élus de Levallois-Perret et de leur non-dangerosité. Anne Lehenaf du service police-justice de RTL. Cinq jours après l'accident survenu sur le Dakar, les proches de Philippe Boutron sont convaincus qu'il a été victime d'un attentat. Le pilote a été rapatrié hier en France, Isabelle Langer.
Oui, à l'hôpital militaire de Clamart, Philippe Boutron est plongé dans un coma artificiel et pour le moment, les médecins ne se prononcent pas, comme nous l'explique l'attachée de presse de l'équipe Sodicar, Marie-France Estenave.
Le service médical, pour l'instant, se dit réservé et lui enlève au fur et à mesure les petits morceaux qu'il trouve dans ses jambes collés à la peau et collés aux os.
L'accident s'est produit jeudi dernier lors des vérifications d'usage, mais n'a été rendu public qu'après le départ du Dakar. Philippe Boutron était au volant du camion d'assistance avec cinq autres personnes à bord. Et Marie-France Estenave de nous raconter ce qu'ils ont vu et surtout entendu.
Eux, ils ont encore dans les oreilles le bruit de l'explosion de cette bombe placée dans le longeron avant gauche de la voiture. Ils sont restés très choqués sur le coup, mais quand ils ont vu la voiture commencer à s'embraser, ils sont vite descendus et ont sorti Philippe de la voiture car il perdait beaucoup de sang.
Vous avez parlé de bombe. Pour eux, ce n'est pas du tout un accident, ce n'est pas le moteur qui a explosé. Hein.
Vu ce qu'il a dans les jambes, c'est difficile de dire que ce n'est pas une bombe.
La famille attend maintenant la vérité. Selon nos informations, à ce stade, les services français qui ont échangé avec leurs homologues saoudiens sont en contact avec le parquet national antiterroriste pour évaluer l'opportunité d'une saisine. Une saisine qui ne préjuge pas du caractère terroriste, mais donnerait un cadre judiciaire pour investiguer.
Explication et récit signé Isabelle Langer. Merci à vous Isabelle. Du foot encore ce soir, dernier 16e de finale de la Coupe de France. Ce sera du 100% nordiste, puisque Lens reçoit Lille. Hier soir, on le rappelle, le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale avec une victoire 4-0 face à Vannes. 4 buts, dont un triplé signé Mbappé. Et puis sachez que Novak Djokovic disputera bien l'Open d'Australie. Le tennisman numéro 1 mondial, qui s'est toujours refusé à communiquer son statut vaccinal, annonce avoir reçu une dérogation.
A priori, ça risque de
faire, mais ça
priori,
risque du coup de faire réagir.
Effectivement, il est 12h42, les deux sujets du jour, le Danemark qui annonce la fin de l'épidémie de Covid dans 2 mois, est-ce qu'on peut y croire? On a envie en tout cas d'y croire, et à 12h50 on reviendra sur le décès, je vous l'avais dit, et le parcours des frères Bogdanov avec celui qui a été leur attaché de presse, Cédric André sera notre invité, à tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Jeg tror, den kommer til at have de næste 2 måneder, og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af.
Stefan er l'une des épidémiologistes les plus éminentes du Danemark, et elle est formelle. D'après ses études, on en a encore pour 2 mois. 2 mois difficiles à combattre le Covid, et après, on peut espérer un retour à la normale. Alors, bien sûr, on a tous envie d'y croire, mais est-ce vraiment possible? Cette vague peut-elle vraiment être la dernière, comme le laissait d'ailleurs entendre dimanche Olivier Véran? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Robert Sebag.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La fin du cauchemar dans 2 mois, ça vous semble possible à vous, médecin?
Bon, non, on a vraiment envie d'y croire. Alors c'est vrai qu'on avait les études d'Afrique du Sud, si vous voulez, mais bon, on était un peu, parce que au niveau sociologique, au niveau culturel, au niveau de la population, c'est un peu différent. Mais là, depuis, nous avons 2 pays, le Danemark, bien sûr, vous venez de le citer, on a des études extrêmement claires, ainsi que la Grande-Bretagne, l'Angleterre et en Écosse. On a des études qui montrent effectivement que certes, ce fameux Omicron, il est plus contagieux, mais il est beaucoup moins virulent, que ce qu'on avait connu avec le Delta. Et alors, on a une explication, je me permets de rajouter ça, physiopathologique. On sait, si vous voulez, qu'il va... Cet Omicron, il va entraîner des formes très légères au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire des petites rhinites, des douleurs au niveau de la gorge, des douleurs pharyngées, mais il ne descend pas au niveau pulmonaire.
Ça reste un rhume.
Voilà, une sorte de rhume, de rhinite, si vous voulez. Et on sait que c'est quand ce virus rentre au niveau pulmonaire qu'il va entraîner des formes graves. Et on voit très très bien, si vous voulez, la décorrélation entre le nombre de contaminations, parce qu'il est très contagieux, et le nombre d'entrées, soit à l'hôpital, soit en soins intensifs. Et là, il faut différencier, si vous voulez, l'hôpital traditionnel. C'est-à-dire l'hôpital traditionnel, vous mettez des gens en observation, un petit peu d'oxygène, il reste beaucoup moins de temps. Par contre, effectivement, en termes de réanimation de formes graves, on en a extrêmement peu aujourd'hui.
Oui, alors, mais nous sommes d'accord, mais ça c'est Omicron. Mais on se dit qu'Omicron pourrait être remplacé par un variant plus coriace, plus rude.
Alors, Monsieur Pro, ce qui est important à dire, c'est que tous les cas que nous avons aujourd'hui, à l'hôpital et en particulier en soins critiques, c'est du delta. Le delta, il n'est pas complètement mort, si vous voulez. Il diminue en dehors de la région PACA. Là, il y a quelque chose de particulier où le delta est en augmentation. Et il est remplacé effectivement par ce variant Omicron qui est effectivement très contagieux, mais beaucoup moins virulent.
Nous alors, sommes d'accord, mais est-ce qu'Omicron peut être remplacé alors,
est-ce
c'est
qu'il
ça
va tuer alors, le Covid voilà. ou est-ce que...
Alors, vous avez toujours... Il a tellement été modifié, si vous voulez, que de nouveaux variants qui pourraient apparaître seraient beaucoup plus banaux, entre guillemets, que l'Omicron.
Donc, mais pourquoi ça, pourquoi en êtes-vous sûr?
Parce que, si vous voulez, il y a eu tellement de mutations que les autres mutations ne pourront pas entraîner plus de virulence. Et donc, c'est ça.
Forcément, s'il mute, ce sera moins virulent. C'est ça.
C'est une excellente nouvelle. Si mais voulez, ça, on est sûr. Pardonnez-moi, je suis un peu échaudé depuis deux ans. On est sûr de ça. On est sûr de ça qu'il ne peut pas avoir un virus plus virulent.
Non, en biologie, Pascal, c'est toujours très très difficile de faire des prévisions. Mais la connaissance et ce que nous disent les virologues, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Alors, il y a un point d'interrogation. Il est réel. C'est dans les pays du Sud. C'est dans les pays du Sud où là, c'est pour ça qu'il faut observer un petit peu les choses, séquencer et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on sait déjà alors combien de temps ça va prendre que la vie de ces coronavirus entraîne, si vous voulez, de plus en plus, peut-être un peu plus de contagion, mais surtout moins de virulence et qu'il devienne banal. Il devient banal comme ça a été le cas de virus grippaux, comme c'est le cas de quatre autres coronavirus qui existent, qui sont tout à fait bénins, qui entraînent des petits rhumes tous les hivers. C'est ça notre espoir.
Docteur Sebag, restez avec nous. Je vous propose de partir en Afrique du Sud, justement, premier pays à avoir, semble-t-il, enrayé la vague Omicron. Oui, on voyage virtuellement, à défaut de pouvoir voyager réellement. Valérie Hirsch, bonjour. Vous êtes la correspondante d'RTL sur place. Ça y est, en Afrique du Sud, vous retrouvez une vie normale?
Ah oui, tout à fait. La quatrième vague qui est arrivée de manière virulente s'est retirée de manière aussi rapide qu'elle est apparue. Donc nous, on est vraiment vers la fin. Là, il y a encore eu 3000 infections hier, mais il y en avait 24 000 par jour vers le 16 décembre. Et donc on est vraiment proche du retour à la normale. D'ailleurs, le gouvernement a levé le 30 décembre toutes les mesures de couvre-feu et autres. Il n'y a plus qu'une seule petite mesure qui reste en place, c'est la limitation des rassemblements à 1000 personnes à l'intérieur, mais tout le reste a été supprimé. Et donc c'est vraiment en plein été austral, les fins de vacances, le retour à la normale.
Et avec aucune inquiétude de voir arriver un nouveau variant?
Bon, là, c'est encore un peu trop tôt, mais ce que j'entends, c'est un peu ce que disait le médecin, c'est que, voilà, s'il y a un nouveau variant, il sera peut-être encore plus contagieux et encore moins virulent. Donc, il y a vraiment, enfin, c'est ce qu'on, le sentiment qu'on a ici, c'est pourquoi est-ce que l'Europe s'inquiète tellement? Oui, vraiment, on se dit, quand on voit qu'on a annulé tous les vols dès l'annonce de la découverte de l'Omicron le 24 novembre en Afrique du Sud, on s'est dit, mais c'est beaucoup trop rapide, on ne sait pas encore quelle est la virulence de ce variant. Et les dégâts pour l'économie sud-africaine ont été très importants. Et là, on se dit, maintenant, l'Europe panique parce qu'ils pensent qu'évidemment, ça va être différent en Europe, parce qu'ici, c'est l'Afrique du Sud, mais finalement, comme disait le médecin, ce n'est pas différent en Europe. C'est un variant qui est beaucoup moins sévère, beaucoup moins virulent. Ici, d'ailleurs, les études montrent que les chances ou les risques d'attraper des formes sévères de la maladie sont 73% moins qu'avec le variant Delta.
Est-ce qu'on a d'ailleurs, et je repose cette fois-ci la question à M. Sebag, le nombre de morts avec le variant Omicron? Alors, est-ce qu'on a une statistique?
Pascal, ce qui est très important, et ce qui se passe en Afrique du Sud, et les épidémiologistes connaissent bien ce phénomène, plus vous avez une montée rapide, vous voyez, ça a été énorme et ça l'est encore chez nous, plus la descente est rapide. Et c'est ce qu'on a vu en Afrique du Sud.
C'est plutôt positif quand on entend 200 000 cas par jour, alors.
C'est bien de nous le dire, quand même.
Ça veut dire qu'on n'est pas... Non, mais Pascal, on n'est pas encore au sommet. Moi, j'attends les résultats de ce soir avec le réveillon et tout ça. On n'est pas encore au sommet, mais on peut espérer une descente rapide courant janvier. Alors, sur votre question sur la mortalité... On a très très peu, comme je vous l'ai dit, de personnes en réanimation et on n'a pas une comptabilisation,
D'accord. Mais il y en avait peut-être en Afrique du Sud. J'ai l'impression que Valérie Hirsch avait une information là-dessus.
Oui, il y a une étude qui a été faite d'ailleurs par une infectiologue française qui travaille pour le plus gros groupe privé d'hôpitaux privés, qui a quand même 49 hôpitaux dans le pays. Et selon son étude, en fait, il y a 10 à 15 fois moins de décès qu'avec le Delta. Et elle précise que elle ne sait pas toujours les causes, en fait, de la mortalité. Dans certains cas, effectivement, les gens sont morts des conséquences de l'Omicron. Mais dans d'autres cas, ils avaient été admis à l'hôpital pour un accident de voiture. Ouais. Donc, ils sont peut-être décédés.
Parce que si c'est qu'un rhume et une rhinite, on ne comprend pas pourquoi, en même temps, il y a des gens qui meurent. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que je ne saisissais pas sur le taux de mortalité. Mais merci en tout cas, Madame Hirsch. Merci, Monsieur Sebag. J'aime bien quand vous nous dites des choses positives.
Mais oui, il faut nous le dire plus souvent.
Il faudrait aussi que le gouvernement tienne compte.
Je suis heureux de vous l'entendre dire.
Véran, non, mais quand Monsieur Véran il dit c'est la fin de cette vague, quand Monsieur Fontanet dit la même chose, mais à côté de ça on met les gens en isolement et ça crée un problème, si vous voulez, au niveau du fonctionnement de la société, parce que les gens sont en arrêt de travail.
Donc il faut revoir les règles.
Je pense qu'il faut avoir la lucidité. Au moins de discuter, de revoir ces règles.
Elles ont été un peu allégées, effectivement. Et puis c'est bien que les alarmistes et les enfermistes qu'on avait entendus entre le 15 décembre et le 25 décembre qui nous annonçaient l'apocalypse dans les hôpitaux, manifestement, cela n'est pas arrivé. Donc si ça pouvait leur servir de leçon, ça nous arrangerait. Merci Monsieur Sebag.
Merci à vous.
Merci Madame Hirsch. On va parler des frères Bogdanov dans une seconde, qui, eux, n'étaient pas vaccinés, il faut également le rappeler, et qui sont décédés. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et voilà, à mi-temps X, grâce à la chronovision, vous avez pu suivre pour la première fois en direct la régression temporelle qui nous permet chaque semaine de franchir les siècles du futur et de vous rejoindre en 1979.
On les avait découverts dans les années 70-80, dans Temps X, émission de science-fiction qui a bercé toute une génération, les inséparables frères Bogdanov, qui sont partis presque en même temps, Igor, hier, 6 jours seulement après le décès de son frère Grichka. Bonjour Cédric André.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici dans le studio d'RTL. Vous êtes l'attaché de presse des frères Bogdanov. Tous deux avaient été admis en réanimation il y a quelques semaines, quasiment en même temps. En même temps d'ailleurs.
Excusez-moi, pardon. Non, parce que du coup, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans l'oreillette.
Ils avaient tous les deux été admis en réanimation en même temps.
En même temps, tout à fait.
En même temps, dans un état inconscient déjà ou...
Non, ils étaient conscients, mais dans un état dramatique. Parce qu'ils ont attendu la dernière minute pour aller à l'hôpital, effectivement.
Décédés tous les deux du Covid, vous nous le confirmez, et ils n'étaient pas vaccinés.
Ils n'étaient pas vaccinés.
À ce moment-là où ils rentrent en réanimation, ils formulent des regrets de ne pas avoir été vaccinés. Ils se rendent compte de ça ou pas du tout ou...
Alors, je peux parler que de choses que je sais. Malheureusement, au moment où ils sont partis à l'hôpital, je ne les ai pas eus au téléphone. Je n'ai pas eu leur dernière parole avant qu'ils rentrent en réanimation. Mmh. Et donc, malheureusement, je ne vais pas extrapoler ou...
Bien sûr, oui.
Ou dire des choses dont je ne connais pas, et en l'occurrence, je ne peux pas vous dire si au moment où ils sont partis à l'hôpital, s'ils avaient le regret de ne pas s'être fait vacciner, et voilà.
C'est un sujet qui est délicat parce que certains veulent instrumentaliser le fait qu'ils n'étaient pas vaccinés pour justifier d'une certaine manière que tout le monde le soit en France.
Exactement.
C'est pour ça que c'est assez délicat. Mais je retiens autre chose, moi, qui n'est pas mise en avant, c'est qu'ils ne se sont pas non plus soignés. C'est-à-dire que non seulement ils n'étaient pas vaccinés, mais ils ont refusé manifestement de se soigner. Ça, je ne comprends pas, alors que des effets étaient importants, qu'ils aient refusé de se soigner.
Alors, c'est pas tellement un refus de se soigner, c'est surtout que Igor et Grichka avaient une alimentation extrêmement saine, extrêmement dépourvue de viande.
Non mais nous sommes d'accord qu'ils n'ont rien pris avant d'aller à l'hôpital, ils n'ont pris aucun médicament.
Mais non seulement ils n'ont rien pris avant d'aller à l'hôpital, mais ils n'ont quasiment jamais rien pris de toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pris un Doliprane et ils ne se sont soignés que de façon thérapeutique avec une alimentation qu'ils considéraient, eux, saine. Maintenant,
c'était ça leur philosophie de vie ?
C'était ça leur philosophie. Leur philosophie, c'était vraiment la bienveillance avec eux Et avec les autres surtout.
Mais ce qui est étonnant pour des scientifiques de refuser de se soigner avec une connaissance, il y a presque quelque chose d'irrationnel là-dedans, un sentiment de toute puissance, même d'imaginer qu'on est plus fort que la nature.
Mais Pascal, quand vous dites irrationnel sur Igor Grishka, c'est presque un pléonasme. Igor Grishka était irrationnel. C'était des gens qui n'étaient pas dans le monde dans lequel nous vivons tous les uns les autres. Igor Grishka n'était fait que de théories, de relativité, de Big Bang, de notions d'infini, de savoir ce qu'il y avait avant ou après, ou peut-être pendant le Big Bang. Il ne vivait que pour ça, il ne vivait que pour la irrationalité, finalement.
Et il faut parler aussi de leur personnalité terriblement attachante, leur gentillesse, leur délicatesse, leur bienveillance. Tous les journalistes qui les ont reçus ont été toujours frappés par cela. Et j'entendais hier Luc Ferry, qui était leur ami, qui les a eus en vacances pendant de nombreuses années, qui dit « ce que je vais te dire, il me l'a dit au téléphone, est terrible, mais au fond, c'est peut-être bien qu'Igor ne se soit jamais réveillé et qu'il n'ait jamais su que Grishka était parti. » Parce qu'entre Igor et Grishka, Igor l'appelait 10 fois, 15 fois, 20 fois
par jour. Ils étaient vraiment inséparables ?
Alors, c'était plus qu'inséparable. Ça sortait de l'entendement. C'était fusionnel. L'un ne pouvait pas être avec l'autre. L'un commençait une phrase, l'autre la terminait. Et je rejoins ce que dit Pascal. Effectivement, finalement, peut-être tant mieux qu'il ne se soit pas réveillé. C'est aussi terrible à dire, mais finalement, quelle aurait été la vie
de
l'un sans l'autre ?
C'est-à-dire qu'Igor est resté dans le coma jusqu'au bout, d'une certaine manière, et lorsque Grishka est mort il y a 6 jours, Igor n'a pas jamais repris conscience.
Il n'a jamais repris conscience, et peut-être qu'il y a quelque chose qui fait qu'entre deux jumeaux, il y en a peut-être un qui l'a senti à un moment donné, je ne sais pas. Je spécule, et je n'ai même pas envie de spéculer. La seule chose, c'est que, encore une fois, il y a quelque chose qui est étrange et en même temps très bizarre, c'est que il y en a un qui est mort en 2021, l'autre qui est mort en 2022, et pourtant 6 jours les séparent.
Bizarre, étrange, c'est des mots qui reviennent aussi quand on parle d'eux, ces personnages qui ne laissaient pas indifférents qui que ce soit. C'est travailler à leur côté avec eux, c'était quoi?
C'était à la fois simple et à la fois compliqué parce qu'ils étaient, alors humainement parlant, c'était des gens extrêmement gentils, c'était des gens bienveillants, c'était des gens pleins de bons conseils, c'était des gens qui tenaient la main, qui s'arrêtaient dans la rue pour parler à Pierre, Paul et Jacques qui les arrêtaient, ils prenaient le temps de faire une photo même s'ils étaient en retard, ce qui les mettait encore plus en retard. Moi, ce qui me rendait dingue, c'est qu'ils étaient toujours en retard. C'est qu'ils vous disaient « j'arrive dans 2 minutes » et ils étaient là une demi-heure, trois quarts d'heure après. « Non, non, mais je suis là dans 2 minutes, je suis à 2 rues », ce qui était évidemment pas vrai, mais ça n'était pas méchant, ça n'était pas... C'était parce qu'ils étaient pris par les gens, pris par le temps, pris par quelqu'un qui l'arrêtait dans la rue et que, par bienveillance, ils s'arrêtaient, ils discutaient.
On va prolonger peut-être de quelques secondes parce qu'à vous écouter, c'est passionnant. Et pour tout dire, je sais que les auditeurs sont très intéressés par la vie des Bogdanov et la mort a transformé leur vie en destin d'une certaine manière. Leur visage. On apprend ces jours-ci qu'ils ne souffraient d'aucune maladie. C'était sans doute des injections qu'ils avaient faites sur leur visage pour des raisons, là encore, qui peuvent nous échapper.
Il y avait quelque part chez eux cette volonté d'être intemporel, d'être différent des uns des autres, d'entretenir une certaine forme de mystère.
Mais c'est comme ça qu'ils l'expliquaient ?
Il l'expliquait pas.
Mais vous leur posiez la question ou pas? Enfin, je sais pas quelle.
Moi, j'ai jamais osé poser leur question.
Je
n'ai jamais osé poser cette question.
Je vais être très honnête avec vous. J'ai eu un accident de la vie qui a fait que j'ai eu le nez cassé suite à une agression. Et Igor et Grishka m'ont proposé d'aller voir leur chirurgien esthétique. Et c'est en ça qu'ils répondaient à la question de leur déformation. Et combien de fois ils m'ont proposé, ils m'ont dit « Mais Cédric, si tu veux... » Voilà, mais encore une fois, si vous voulez, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de polémique à avoir. C'était des gens d'une gentillesse. C'était des gens qui entretenaient une certaine forme de mystère. C'était des gens qui ont connu un succès absolument invraisemblable avec leur émission Temps X. C'était des gens qui rêvaient qu'une seule chose, c'est de revenir à ce temps de Temps X, finalement, qui ne s'est jamais fait, malgré le nombre de fois où ils m'ont dit « on est sur un projet, on est sur un pilote ». Et ça, je l'ai entendu pendant 10 ans, des pilotes, peut-être qu'il y en a eu des centaines.
Alors, mais effectivement, il y avait un projet pour C8 qui n'est jamais arrivé. Alors on a appris que Igor avait donc 6 enfants et Grishka était célibataire.
Célibataire, oui.
Et Igor a eu 6 enfants.
6 enfants.
Ouais.
Et donc, dont un qui est aujourd'hui extrêmement petit. Et je ne vous cache pas que la famille, aucune personne de la famille ne donnera quoi que ce soit comme témoignage. Leur peine est extrêmement douloureuse.
D'ailleurs, le dernier enfant d'Igor Bogdanov, il a quel âge ?
Quelques années, oui.
Est-ce qu'il y aura une cérémonie pour leur rendre hommage, une cérémonie religieuse, parce que Grishka Bogdanov est décédé ? Il n'y a pas eu de cérémonie pour le moment ?
Alors, de ce que je sais, c'est que la famille attendait de savoir si l'autre allait se réveiller pour éventuellement organiser quelque chose. De ce que je sais, c'est que je vais respecter les volontés de la famille et les laisser organiser cela comme ils le souhaitent, de surtout respecter leur chagrin, leur douleur, qui est absolument immense aujourd'hui, parce que nous parlons de deux personnages publics, mais eux perdent un frère, un père, quelqu'un de très proche
quand
de leur famille.
La famille, d'ailleurs, c'est les enfants d'Igor, et vous dites un frère, c'est-à-dire que...
Ils avaient un frère jumeau, et ils ont une sœur qui s'appelle Véronique.
Quand vous dites qu'ils avaient un frère, jumeau
Non, pas un troisième frère, ils ont un demi-frère, pardon, excusez-moi.
Oui, parce que là, vous m'étonniez.
Excusez-moi, ils n'étaient pas triplés, non.
D'accord. Vous savez, d'ailleurs...
Je suis un peu sous l'émotion, Pascal, aussi.
Ça s'entend, et je vous comprends. Vous savez, d'ailleurs, et on le disait avec Amandine, il y a toujours un fantasme, parfois, sur les jumeaux. J'ai entendu hier quelqu'un qui m'expliquait qu'il les connaissait très bien, avec qui il était sorti de nombreuses années, et qu'ils n'étaient pas jumeaux.
Alors,
que Igor était plus âgé et qu'il m'assurait, il me disait non, ça, non. À l'époque, on ne disait pas qu'ils étaient jumeaux. D'ailleurs, à l'époque, on parlait des frères Bogdanov.
Pascal, est-ce que vous croyez sincèrement aujourd'hui que ce soit vrai ou pas vrai ?
Non, je crois que c'est faux, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours un fantasme.
Il y a une mythologie
parfois. Je crois aussi que c'est faux. En l'occurrence, ils avaient 72 ans, je n'étais pas là à leur naissance il y a 72 ans.
29 août 49.
Voilà, donc je n'étais même pas pensé, même pas envisagé. Je ne vais pas faire une enquête aujourd'hui pour savoir si Igor et Grishka, c'était leur volonté.
Mais en revanche, pour terminer sur la cérémonie, vous disiez c'est la famille, donc un frère qui est plus jeune ou plus vieux ? Un demi-frère plus jeune ?
Il est plus jeune, oui.
Donc c'est lui aujourd'hui qui va décider comment les choses vont s'organiser ?
Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est la sœur, je ne sais pas si ce sont les enfants, si ce sont les ex-femmes de Grishka, je ne sais pas. Je ne sais pas. De Igor.
De Igor, puisque on a dit tout à l'heure que Grishka était célibataire et que Igor... Ben merci, vraiment merci, parce que vous l'avez dit d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, vous avez pu témoigner, vous étiez leur ami, et tous ceux d'ailleurs que j'ai eu, Luc Ferry, Eric Nolot, qui étaient des amis, à chaque fois on parlait hier avec des trémolos dans la voix, parce qu'il y a beaucoup d'affection et beaucoup d'amour autour d'eux. Vraiment merci beaucoup Monsieur André, je rappelle que vous êtes attaché de presse de Igor et Grishka Bogdanov. Merci parce qu'on a un peu prolongé, il est 13h05, mais c'était vraiment très intéressant de vous écouter. On va marquer une pause et faire le rappel des titres, et puis avec les auditeurs pourront évidemment rebondir sur ce que vous avez dit, et en tout cas commenter ce que vous avez dit. Merci beaucoup.
Merci.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h06. Les auditeurs ont